Chris Faumunieu, bonjour.
Bonjour.
Un mois après le coup d'État au Niger, pensez-vous comme certains qu'il peut y avoir des putschs démocratiques ?
Effectivement, ce serait très difficile de dire qu'il y a des bons coups et des mauvais coups, parce que en tant que démocrate, on doit condamner toute prise de pouvoir par la force. Mais toujours est-il qu'il faut reconnaître que les dérives autoritaires du président Tanja ont poussé le peuple nigérien vraiment au désespoir. Et c'est dans ce cadre, justement, que nous espérons, dans l'esprit, de rétablir la démocratie et de permettre vraiment au peuple nigérien de pouvoir s'exprimer.
Alors, à la différence du putsch précédent, du putsch de 99, le président renversé a eu la vie sauve. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de coups d'État que dans le passé, mais qu'ils sont moins meurtriers ?
Vous savez, à un certain moment, on avait pensé que les histoires de coups d'État en Afrique étaient derrière nous. Mais ces derniers temps, effectivement, on revoit l'insurgence des militaires dans la géopolitique, ce qui s'explique aussi par la faiblesse et les échecs des civils, comme ça a été le cas par le passé.
À la suite de la dernière présidentielle au Gabon, en août 2009, l'opposant André Baobab continue d'en contester le résultat et dit que si ça continue, il risque d'y avoir un coup d'État dans son pays d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous pensez que si les civils étaient mieux élus, il y aurait moins de risques de coup d'État ?
Effectivement, comme disent certains, notamment le président actuel du Mali, Amadou Toumani Touré, les coups d'État arrivent en Afrique par la porte lorsque la démocratie sort par la fenêtre. Donc c'est pour dire en quelque sorte que si les civils se comportaient mieux dans la gestion des affaires publiques, si les élections étaient vraiment transparentes et que tout le monde acceptait l'issue sans contestation, c'est qu'il n'y aurait pas de raison pour que les gens pensent à d'autres moyens d'accéder au pouvoir politique. C'est pour cela que les pays africains dans lesquels on voit des alternances paisibles, comme au Ghana, comme à l'île Maurice, comme en Afrique du Sud, auront forcément moins de coups d'État que des pays dans lesquels la démocratie tarde à trouver droit de cité.
Au Congo-Kinshasa, au Togo, au Gabon, le fils a succédé au père. Est-ce que vous craignez une dérive monarchique ?
C'est un phénomène qui fait peur à pas mal d'Africains et les gens en parlent justement parce qu'ils ne voudraient pas que 50 ans après les indépendances, ils se retrouvent sur des monarchies qui ne disent pas leur nom.
Alors, on voit beaucoup d'observateurs internationaux dans des pays où les élections sont manifestement fraudées et ces observateurs ne disent quasiment rien. Pourquoi ?
Justement, de plus en plus, le travail des observateurs internationaux est contesté par la société civile africaine. Je me réjouis d'ailleurs du fait que de plus en plus, on voit à travers le continent africain des organisations de la société civile africaine qui mobilisent des milliers d'observateurs nationaux qui observent leurs propres élections. Et très souvent, je me dis que ces observateurs nationaux auront beaucoup plus d'impact que les quelques internationaux qui arrivent à quelques jours du scrutin.
Et est-ce que récemment, des observateurs du NDI sont allés dans un pays où il y avait de la fraude et où ils l'ont dénoncé ?
Par le passé, par exemple en 1992, l'NDI avait pris une position très forte contre la façon dont les élections ont été gérées au Cameroun en 1992. Au Nigeria, par exemple, en 2007, notre déclaration a été très sévère contre la façon dont les élections ont été organisées au Nigeria.
Vous êtes d'origine camerounaise. Est-ce que le NDI enverra des observateurs à la présidentielle camerounaise de l'année prochaine ?
Je crois que c'est le souhait des démocrates africains, c'est qu'on fasse tout pour que mon propre pays puisse connaître des élections crédibles et transparentes. D'ici 2011, on verra un peu plus clair.
En fait, ce que vous dites, c'est que la démocratie, ce n'est pas seulement le jour des élections, c'est ça ?
Ce n'est pas seulement le jour des élections. Et notre souhait, c'est de voir les autres piliers de la démocratie, c'est-à-dire l'indépendance du pouvoir judiciaire, le contre-pouvoir législatif, la liberté pour la société civile, les médias, les différentes associations, pour que la démocratie puisse vraiment prendre droit de cité sur notre continent.
Alors ça, c'est aussi le discours de Barack Obama, celui qu'il a tenu en juillet dernier à Accra. Mais est-ce que concrètement, le département d'État américain exerce des pressions sur les pays qui n'appliquent pas ce type de programme ?
Je crois que depuis l'administration Bush et maintenant, on voit la même politique avec le président Barack Obama, il y a une certaine consistance dans la position américaine vis-à-vis la promotion et le soutien de la démocratie et la bonne gouvernance sur le continent africain. C'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on a constaté le dérive autocratique du président Tanja, comme le massacre de la Guinée, les États-Unis ont pris une position très ferme.
Même position que la France d'ailleurs, non ?
Sur ces deux cas justement, il y a eu comme un consensus entre la France et les États-Unis pour la promotion de la démocratie sur le continent. On aurait souhaité voir la même collaboration et la même prise de position envers des pays comme le Madagascar qui continue à gérer une crise politique qui dure depuis plus d'un an.
Alors justement, sur Madagascar, on a vu la fermeté de Barack Obama qui a retiré à ce pays les bénéfices commerciaux de l'AGOA. En revanche, on a le sentiment que Paris est beaucoup plus compréhensif à l'égard du régime d'Andjad Zoël. Qu'en pensez-vous?
Oui, je crois que cette dichotomie date depuis les élections de 2000, des élections dans lesquelles certains magages pensaient que la France soutenait Didier Racirac et les États-Unis soutenaient Marc Ravalomanana. La preuve en est que les États-Unis étaient parmi l'un des tout premiers pays à féliciter Marc Ravalomanana. Je crois qu'il serait temps, maintenant que la crise a duré plus d'un an, il serait temps que les partenaires puissent parler de la même voix pour qu'on puisse trouver une issue crédible à la crise malgache.
Chris Faumunieu, merci.